Bonjour à tous. Alors, ce matin, donc, nous continuons notre étude de l'Épître aux Romains. Nous arrivons au chapitre 7. Et c'est un chapitre, comme tous les autres, en fait, hein, donc on l'a dit en fait à chaque fois. C'est vrai que Romains, c'est un texte qui est pas facile à aborder, qui est assez dense, mais qui en même temps, et Luc a particulièrement insisté la dernière fois où il a prêché là-dessus, qui est particulièrement fondamental dans notre vie parce qu'il pose des bases de notre relation à Dieu. Donc là, dans ce chapitre 7, Paul va continuer donc son développement, son exposé sur la libération, par le passage de la mort à la vie. Cette image est encore reprise. Donc Yann nous en a parlé la semaine dernière sur le chapitre 6, donc avec l'identification à Christ, l'identification à sa mort, à sa résurrection, et donc de cette libération du péché. Cette libération de l'esclavage. Et cette fois-ci, donc, dans ce chapitre 7, c'est davantage la loi qui va être étudiée, développée. Donc il va revenir en fait hein, sur la place de la loi dans cet esclavage que nous avons vécu, que nous vivons. Sur le lien en fait entre la loi et le péché, et puis sur l'expérience que nous faisons de cette loi, la façon dont nous la vivons. Et on va voir que dans ce texte il va y avoir un passage très très personnel où Paul va beaucoup utiliser le je. Il y a un passage vraiment où on sent une part fortement autobiographique, hein, où Paul parle de sa vie, de ce qu'il a vécu, et il y a une intensité très, très, très poignante, en fait, hein, dans ce que Paul va partager. Alors, c'est un texte qui fait 25 versets. Alors, moi, à l'époque où je passais le bac, en fait, on faisait des dissertations en trois parties. Alors, je vais découper ce texte en trois parties. Et pour nous permettre, donc je vais le lire en trois fois, ça nous permettra de l'aborder peut-être d'une façon d'être un peu plus proche du texte. J'ai peur que si je le lis tout en une seule fois, on aura un peu oublié à la fin ce qu'on a entendu au début. Donc je vais lire d'abord les six premiers versets. Alors je vais les lire dans la traduction du Semeur, donc au chapitre 7. Et je commence, donc, « Ne savez-vous pas, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi ne régit un homme que durant la durée de sa vie. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant que celui-ci est en vie. Mais s'il vient à mourir, elle est libérée de la loi qui l'a liée à lui. Si donc, du vivant de son mari, elle appartient à un autre homme, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de cette loi et peut donc appartenir à un autre, sans être adultère. Il en est de même pour vous, mes frères. Par la mort du Christ, vous êtes aussi morts par rapport à la loi, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, pour que nous portions des fruits pour Dieu. Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, les mauvais désirs suscités par la loi étaient à l'œuvre dans nos membres pour nous faire porter des fruits qui mènent à la mort. Mais maintenant, libérés du régime de la loi, morts à ce qui nous gardait prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle, par l'Esprit, et non plus sous le régime périmé de la lettre de la loi. » Donc, comme je vous l'ai dit, Paul reprend cette image de la mort et de la vie. Et cette fois-ci, il nous dit « Vous êtes mort à la loi ». Mort, alors dans cette traduction, mort par rapport à la loi. Au chapitre 6, il avait avancé l'idée que nous étions morts au péché, ressuscités en Christ. Et cette fois-ci, nous sommes morts à la loi et vivants pour porter des fruits pour Dieu. Et donc là, on voit bien que Paul explique une différence de régime. D'accord ? Donc cette traduction, c'est le terme qui est employé, hein, le régime de la loi, un rapport à Dieu qui basé notre justice sur l'observation des règles de la loi, donc une justice acquise. Donc cet ancien régime, et Paul nous dit là, un régime périmé, cet ancien régime est remplacé par le régime de la loi de l'esprit. Un nouveau rapport à Dieu où le service, puisque dans l'ancienne alliance, évidemment, il y avait un service rendu à Dieu, et bien dorénavant, ce service n'a plus pour objectif d'être libéré du péché, mais c'est le contraire. Nous sommes, parce que nous sommes libérés du péché, et bien nous pouvons servir Dieu d'une façon nouvelle. Et cette vie de l'esprit, cette façon ce rapport à Dieu nouveau et régénéré sera abordé. Alors il a déjà été abordé en partie, hein, puisque Yann l'a expliqué la semaine dernière, hein, Paul revient sur ce qu'il a déjà dit, et il le répète d'une façon un petit peu différente, et il progresse comme ça en revenant en arrière et en reprenant des idées et en les faisant avancer, hein. Donc c'est une façon de raisonner qui nous est pas forcément familière, mais dans laquelle on rentre aussi et qui nous permet de nous aussi de reprendre des idées qu'on avait déjà reçues pour les approfondir et les faire progresser. Donc cette vie de l'esprit sera donc plus développé donc au chapitre 8. Et on voit donc dans ce passage une critique de la loi assez violente. Je vous rappelle que donc cette église de Rome, dans laquelle cohabitent des non-juifs et des juifs, des pagano-chrétiens, des grecs et des juifs, donc pour ces juifs, entendre cette critique de la loi, ça a dû être assez violent, et donc les termes que Paul emploie sont forts, hein. Il nous dit « Les mauvais désirs suscités par la loi étaient à l'œuvre dans nos membres pour nous faire porter des fruits qui mènent à la mort. » Donc là, on voit que la loi est associée à des mauvais désirs, d'accord ? Des mauvais désirs qui mènent à la mort. C'est une critique qui est forte et donc qui va être développée tout au long de ce passage. Et donc je continue au verset 7. Et Paul nous dit: que dire maintenant? La loi se confond-elle avec le péché? Loin de là. Seulement, s'il n'y avait pas eu la loi, je n'aurais pas connu le péché. Et je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi ne m'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Mais alors le péché, prenant appui sur le commandement, a suscité en moi toutes sortes de désirs mauvais. Car sans la loi, le péché est sans vie. Moi pourtant, autrefois, sans la loi, je vivais. Mais quand le commandement est intervenu, c'est le péché qui s'est mis à vivre. Et moi, je suis mort. Ainsi, ce qui s'est produit pour moi, c'est que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. Car le péché a pris appui sur le commandement, il m'a trompé. Il m'a donné la mort en se servant du commandement. Ainsi, la loi elle-même est sainte, et le commandement, saint, juste et bon. La mort par la loi. Ici, Paul nous montre que c'est la loi qui a donné sa puissance au péché. Donc là encore, c'est une critique forte de ce mode de rapport à Dieu. Alors, ce texte, évidemment, on peut le lire d'une façon, on va dire, psychologisante, hein, et certains l'ont fait évidemment, hein, on peut voir dans ce texte le moi, le surmoi, on peut voir justement le rapport au père et à la loi, on peut... Bon, c'est une façon de lire ce texte qui probablement apporte un éclairage intéressant. Bon, moi, je suis pas forcément compétent dans ce domaine-là, donc c'est pas la lecture que je vais avoir. Mais on voit que là, Paul lit le fait que une fois que la loi est donnée, le péché prend vie. C'est comme ça qu'il le dit. Le péché prend vie. Et alors la façon dont moi j'entends ça, c'est que simplement la loi, eh bien, elle nomme, elle dit ce qu'est la transgression. L'homme naturel, évidemment, il transgresse la volonté de Dieu, sans forcément en avoir conscience. Bon, et Paul a expliqué hein, que la volonté de Dieu se manifeste dans la nature et qu'elle est accessible à tout homme. Mais la loi va poser des mots, va nommer ce qu'est la volonté de Dieu, va nommer ce qu'est le but, puisque le péché est donc un on le sait, hein, donc on l'a dit souvent, mais donc c'est manquer le but. Donc la loi va donner un nom à cette transgression et montrer à l'homme combien il rejette Dieu, puisque le péché c'est cette puissance, et Paul met en avant cette puissance du péché, cette puissance qui rejette la souveraineté de Dieu. Puisque, donc, on l'a dit souvent, mais le péché originel, hein, c'est « vous serez comme des dieux ». C'est ça qui est à la racine de cette rébellion contre Dieu, et la loi... En disant, tu ne convoiteras pas, place une limite, place une ligne, et la simple existence de cette ligne va permettre au péché, à cette puissance de rébellion, de se manifester en disant, eh bien, puisqu'il y a une ligne à franchir, je la franchis. Et je deviens mon propre Dieu. Et on voit bien hein, que dans cette description, on retrouve des échos de ce péché originel. Le péché nous a trompés, comme le serpent a trompé Ève en lui disant « vous serez comme des dieux ». Donc le péché nous trompe en prenant appui sur le commandement. Et bien sûr, on peut se demander pourquoi le commandement ? Si ce commandement donne sa puissance au péché, pourquoi est-ce que Dieu a donné ce commandement ? Et quand on réfléchit à la Genèse, hein, évidemment, c'est une approche qu'on a déjà entendue en fait, hein, que c'est parce que Dieu avait posé un interdit que l'homme l'a franchi, donc la faute est sur Dieu. Bien sûr que ce texte s'oppose à cette façon de réfléchir. C'est pas la limite qui était mauvaise, mais c'était l'orgueil de l'homme qui l'a poussé à transgresser ce choix que Dieu lui avait donné. Puisqu'au bout du compte, la loi pose un choix et donne un choix à l'homme. Et c'est peut-être ce choix qui fonde aussi notre liberté. Choisis la vie. Ça, c'est l'Ancien Testament, c'est ça, hein, Deutéronome. Je mets devant toi la mort et la vie, choisis la vie. Et la loi, c'est ça. C'est cette limite que Dieu place devant nous, cette révélation de sa volonté et cette liberté qu'il nous donne de lui donner sa place ou de la prendre. Et ce texte, ce passage se conclut en disant « La loi est bonne, le commandement saint, juste et bon. » La loi est bonne, mais elle est sans puissance. Sans puissance de transformation, sans puissance pour s'opposer à la puissance du péché. Et cette puissance de transformation, elle se trouvera dans, alors, d'abord en Christ, et dans ce qu'il a accompli, et puis dans l'esprit qu'il va nous donner. Mais en elle-même, la loi, si elle est bonne, se révèle sans puissance de transformation. Donc je continue au verset 13, et c'est là où on va rentrer en fait dans ce passage dont, si personnel de Paul, un passage qui est aussi difficile à comprendre. Hein, on le dit souvent parce qu'on lit en fait des commentaires et de différents théologiens qui présentent la différente façon de comprendre et de lire ces textes, parce qu'évidemment ils font partie de la structure de l'Église. Donc on a réfléchi sur ce que ces textes voulaient dire depuis 2000 ans. Et on a parfois eu du mal à les comprendre. Il y a différentes façons de les comprendre. Et en particulier dans le texte qui vient, il y a une difficulté. Donc je vous ai dit que Paul allait beaucoup employer le jeu. Et la difficulté, c'est de savoir de quel jeu il s'agit. Parce qu'il y a différentes, évidemment. Voilà. Donc, je vais lire ce texte et vous allez voir. Donc, peut-être demandez-vous dès maintenant, en fait, quel est le Paul qui parle. Donc, à partir du verset 13. Est-il donc possible que ce qui est bon soit devenu pour moi une cause de mort? Au contraire, c'est le péché. En effet, il m'a donné la mort en se servant de ce qui est bon pour manifester sa nature de péché et pour montrer son excessive perversité par le moyen du commandement. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et ce que je déteste, je le fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Lorsque je veux faire le bien, je découvre cette loi. C'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi qu'approuve ma raison et fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis. Qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Dieu soit loué. C'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé, moi-même, je suis par la raison au service de la loi de Dieu. Mais je suis dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. Malheureux que je suis. C'est un texte qui est poignant, hein. Je vous l'ai dit. Paul écrit dans un style très personnel. Il nous parle de cette lutte de celui qui veut plaire à Dieu, qui reconnaît la sainteté de la loi, mais qui échoue à la mettre en pratique. Alors, qui parle dans ce texte? Et il y a au moins quatre façons de comprendre ce jeu de Paul. Une première façon, c'est de voir dans ce jeu, eh bien, le jeu humain. Le jeu d'un homme ou d'une femme qui partage cette nature adamique, cette nature où sa raison s'oppose à ce qu'il arrive à accomplir. Et on trouve des textes semblables à celui-là dans les textes grecs. Eschyle, Ovide vont dire un peu des choses semblables. Je ne fais pas ce que je veux. Mes passions, parce que voilà, c'est ça qui préoccupe les Grecs philosophes, c'est mes passions, je n'arrive pas à les maîtriser. Donc c'est une première façon de comprendre donc cette lutte qui habite dans chaque être humain et qui constate que il n'est pas capable de maîtriser complètement les passions qui l'habitent. Une autre façon d'entendre ce texte, c'est le jeu juif. Ce jeu, donc ce Paul pharisien qui connaît la loi et qui découvre, peut-être a posteriori, puisque d'autres textes nous parlent quand Paul parle de sa vie d'avant la conversion, il se présente comme étant juste devant la loi. Bon, alors ici c'est peut-être un moment où Paul regarde sa vie et s'aperçoit que en tant que juif, il était incapable d'accomplir ce que la loi demande. Et là, on peut faire un parallèle avec certains psaumes, où le psalmiste David, par exemple, constate son péché et se place devant Dieu en pleurant et en appelant à la miséricorde de Dieu. Un autre jeu possible, eh bien, c'est le chrétien. Et le chrétien présenté là comme aussi, donc de la même façon que le juif connaissant la loi et désirant l'accomplir, donc le chrétien qui lutte pour faire ce qui plaît à Dieu, mais qui échoue à le faire parce que immature, parce que incapable de profiter de la libération de l'esprit, libération dont Paul a déjà parlé et dont il parlera encore au chapitre suivant. Puis une quatrième façon de voir ce jeu de Paul, eh bien c'est de voir Paul, tout simplement. Paul avec sa marche avec Dieu, Paul l'apôtre, celui qui fait, disons, l'objet de notre admiration pour sa foi et sa consécration, eh bien ce Paul qui lui aussi lutte avec le péché. Alors il y a différentes, donc je vous l'ai dit, hein, différentes, donc certains théologiens vont s'attacher à un aspect ou à un autre. Bon, il y a quand même un consensus pour dire que ce texte, ce jeu, s'adresse aussi aux chrétiens. Pour la plupart, en tout cas, voilà, pour ceux que j'ai lus, la plupart, en fait, s'attachent à penser qu'il s'agit là d'un chrétien immature, donc de celui qui n'a pas réussi à vivre la libération que donne l'Esprit, ou bien un chrétien qui vit un temps de lutte particulièrement intense. Et c'est vrai que ce texte nous montre une lutte profonde, une lutte déchirante. Cet appel de Paul, malheureux que je suis, effectivement, est pas quelque chose c'est une espèce de paroxysme quand même, hein, dans la relation à Dieu. Alors, Moi, j'avoue que ma compréhension de ce texte me pousse plutôt à penser à la quatrième solution, c'est-à-dire au fait que c'est Paul qui parle. Et Paul, dans sa marche avec Dieu. Et c'est vrai que c'est difficile de concilier ce texte où Paul parle de cet esclavage, alors que dans avant et après, il parle de la libération. Et donc voilà, par exemple au verset 14, donc là il nous dit voilà, je suis comme vendu comme esclave au péché, au verset 24, ou plutôt 23. Voilà, elle fait de moi la loi, donc voilà, elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché. Et alors qu'au quelques versets plus loin, il nous dira que la vie de l'esprit m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc on voit bien que c'est pas facile de concilier ces deux réalités. Pourtant, ce passage-là, je pense, résonne fortement pour beaucoup de chrétiens, parce que ça correspond à, je pense, à un vécu pour beaucoup d'entre nous. Cette douleur face à l'incapacité que nous avons vécue à un moment ou à un autre de notre vie d'accomplir ce que Dieu attend. On a tous eu des vies différentes, évidemment. Et pour certains, ils ont dû affronter l'addiction, par exemple. Et se battre contre ça, et ça a pris longtemps. Et ces textes-là, eh bien, on les prend pour nous-mêmes. Cet appel de Paul, qui me délivrera ? Eh bien, on a pu le vivre dans nos vies. Et alors, moi, je fais partie de ceux qui se sont... Je me suis converti assez jeune. Et la foi est devenue importante dans ma vie à un moment où j'étais adolescent. Vous le savez, l'adolescence, c'est un moment compliqué dans la vie... dans la vie d'un être humain, d'un homme ou d'une femme, pour, alors je vais le dire pour les hommes, parce que je ne suis pas sûr de forcément bien le comprendre pour les femmes, mais en tout cas, la découverte de la sexualité à l'adolescence, c'est quand même quelque chose qui est compliqué à gérer et à découvrir. Et à ce moment-là de ma vie, eh bien, ces textes-là étaient particulièrement prenants et particulièrement vivants. Pour moi, parce que cette sexualité difficile à maîtriser, dans laquelle pour laquelle on lutte et sur laquelle on chute aussi souvent, eh bien, c'était ce texte qui nous montre Paul qui lutte et qui se découvre si faible. Eh bien, ça permet de voir que le chrétien lutte. Et que ça fait partie de sa vie, et que tu n'es pas anormal parce que tu luttes et parce que tu chutes. Et je pense que ces temps de lutte et ces temps d'échec et de victoire, parce que bien sûr il n'y a pas que de l'échec, et il y a aussi de la libération et de la et des moments où Dieu agit dans nos cœurs et dans nos vies. Eh bien, ces temps de combat façonnent notre rapport à Dieu, façonnent aussi notre façon de regarder les autres. Moi, ce qui me touche particulièrement dans ce texte, c'est ce verset 18, je sais que le bien n'habite pas dans ma chair. Hein, littéralement, c'est ça, hein, dans ce que je suis par nature. C'est comme ça que c'est traduit dans la version Summer. Littéralement, c'est la chair. D'accord ? Donc cette nature, cet homme livré à lui-même, c'est comme ça que c'est souvent traduit, cet homme livré à lui-même. En moi, il n'y a pas de bien. C'est un constat amer. Par lequel passe la maturité. À un moment donné, dans sa vie, il faut arriver à prendre conscience de ça. En moi, il n'y a pas de bien. C'est douloureux, c'est une humiliation et une souffrance. Mais ce constat que fait Paul, et par lequel je pense qu'il veut que nous passions. En moi, il n'y a pas de bien. Une fois qu'on a réussi à accepter ça, et à l'accepter vraiment, hein, parce que on a tous envie d'être quelqu'un de bien, évidemment. C'est comme ça qu'on a envie de se percevoir. On a envie d'être quelqu'un de bien. Arriver à accepter que ce bien-là n'habite pas en nous, et ce texte donc démarre avec ça, commence avec ça, hein, et on voit bien qu'il y a dans ce texte je vais prendre cette image-là, mais comme un alcoolique qui touche le fond et qui, quand il est au fond, arrive à remonter. Eh bien là, on voit ça. Hein. Malheureux que je suis, qui me délivrera ? Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ. Donc, dans ce passage, on voit ce rebond, ce désespoir qui rencontre la vie que Dieu nous donne en Christ. Mais ce constat, le bien n'habite pas en moi. Et donc le Christ me délivre. Il me délivre de la condamnation, et c'est ce qu'on verra au chapitre suivant. Il me délivre et il me change aussi. Il me change par son esprit. Par son esprit qui habite en moi, il me change. Pourtant, cette délivrance, cette libération complète du péché et de la mort, eh bien cette libération complète est encore à venir. Elle est déjà là, mais pas entièrement. Et c'est ce que je trouve dans ce passage, hein, évidemment. Alors, une fois de plus, hein, plusieurs façons de le lire, mais quand on choisit effectivement de voir dans ce jeu de Paul un jeu présent, eh bien forcément on est obligé d'accepter que la délivrance dont Paul parle, cette libération, eh bien cette libération, elle est son accomplissement complet est à venir. Et je pense que c'est important d'accepter ça parce que si on pense que nous pouvons aujourd'hui nous libérer complètement du péché, alors d'une part d'autres passages dans la parole nous disent que nous faisons Dieu menteur, hein, parce que c'est ces gens qui disent ça, mais et en plus je pense qu'on se met sur les épaules un poids qui est injuste. Il nous faut accepter cette incapacité à accomplir ce qui est bien. On voit que Paul fonctionne vraiment en opposition, hein. Il n'y a pas de gris chez Paul. C'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Mais en même temps, ce tout l'un, tout l'autre sont des réalités qui coexistent. Donc, l'image, moi, qui m'était venue par rapport à ça, c'est celui d'une ampoule. D'accord ? Une ampoule, par elle-même, contient pas d'énergie, contient pas de lumière. Elle a besoin d'être branchée à une source d'énergie pour pouvoir briller. Et bien pour nous, je pense que c'est un peu là, c'est la même chose. En nous-mêmes, il n'y a pas de lumière. La lumière vient de Dieu, vient de ce que Dieu fait passer en nous. Et il y a des moments où nous sommes éteints et des moments où nous sommes allumés. Penser qu'on peut être allumé 24/24, je pense que c'est se tromper. Pour moi, ce qui est important dans ce texte, c'est d'accepter que la lutte fait partie de notre vie de chrétien. Cette lutte, ces échecs, ça fait partie de ce que nous vivons, plus ou moins intensément, évidemment, selon les moments. Forcément, on n'est pas dans un état de souffrance profonde, comme le décrit ce texte, en permanence, évidemment. Malgré tout, c'est une réalité qui, je pense, doit faire partie de notre vie. D'avoir conscience que dans ce corps que nous vivons, alors c'est intéressant hein, l'utilisation que Paul fait de ce mot, la chair, qui a évidemment un sens un peu ambivalent. Il y a d'une part la chair, on va dire au sens spirituel, donc comme l'homme séparé de Dieu, mais il y a aussi la chair comme étant le corps qui nous constitue. Et c'est quelque part c'est une bonne image. Nous voyons bien notre corps et ses imperfections, les souffrances, les maladies qui nous touchent. On voit bien que notre corps n'est pas un corps glorieux, qu'on n'y est pas encore là. Ça nous permet de voir que eh bien, ce que nous vivons dans notre corps, nous le vivons tout court. Nous le vivons avec nos souffrances. Nous le vivons avec nos luttes. Et quelque part, voilà, il faut accepter ça. Et ça change aussi notre regard sur l'Église. Notre regard sur l'Église. Notre communauté n'est pas une communauté de parfaits. Hein, vous savez, au début du millénaire, il y avait une hérésie qui s'appelait les cathares, merci. Voilà, dans laquelle en fait les chefs s'appelaient les parfaits. Bon, non, il n'y a pas de parfaits parmi nous. Il y a des saints, mais des saints qui sont sanctifiés. Hier soir, je regardais avec Timothée, on regardait un dessin animé qui représentait, il y avait deux familles dans ce dessin animé. Il y avait une famille parfaite, avec un père et une mère en bonne santé, qui faisaient du sport, qui se parlaient, qui faisaient du yoga, ils étaient zen, ils étaient tout bien, ils postaient des photos d'eux sur Instagram, tout le monde était super jaloux. Et puis à côté, il y avait la famille dysfonctionnelle où les parents, les enfants se comprenaient pas, où ils se gueulaient dessus, où il y avait des embrouilles, des machins et des trucs. Et Et parfois, à l'Église, on a l'impression que... On a parfois l'impression que ça doit être une église Instagram. Vous savez, où on voit que les photos quand ça va bien. Quand on est en vacances au Baléares, si vous allez au Baléares, je sais pas où, bref. Où, voilà, vous êtes en forme, vous êtes beau, vous êtes heureux, vous êtes, voilà, vous êtes tout ça, là, tout ce qui va bien. Et puis, forcément, les gens vrais, enfin, à côté, bah, eux, non, ils sont pas tout le temps en forme, ils sont pas tout le temps heureux, ils sont pas... Voilà, ils sont pas tout le temps en vacances, ils sont pas, voilà, bref. Ils galèrent avec leur truc de tous les jours. L'église dans laquelle j'ai envie de vivre, moi, ben voilà, c'est pas une église Instagram. C'est pas une église où tout le monde va bien tout le temps. C'est une église où il y a du péché, où il y a des gens qui luttent, où il y a des gens qui voudraient faire ce qui est bien tout le temps, et puis qui n'y arrivent pas. Et donc qui ont besoin des autres, qui ont besoin d'être encouragés, qui ont besoin de se repentir, parce qu'il ne s'agit pas de dire que le péché c'est pas grave ou que le mal c'est relatif. C'est pas du tout ce que dit Paul. On voit bien au contraire que dans ce texte Paul il souffre de voir que ce qu'il voudrait faire il n'y arrive pas. Alors il ne s'agit pas non plus de dire qu'on est enchaîné à l'échec, ce n'est pas vrai, parce que justement, il y a cette autre réalité, cette réalité de la libération, et que nous vivons aussi. Nous vivons cette libération du péché, ces moments parfois de grâce, où on voit la lumière de Dieu qui brille, même des fois à travers nous. Et on se dit, mais comment est-ce que ça, j'ai pu réussir à faire ça? Voilà. C'est ce moment-là où on voit l'Esprit de Dieu. Peut-être, il y a peut-être plein de moments où, en fait, Dieu agit à travers nous et on ne s'en rend pas compte. Mais il y a des moments où on le voit. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une église normale? Qu'est-ce que c'est qu'une vie chrétienne normale? Alors, effectivement... Donc, dans ce que je lisais, on disait « Ben non, alors voilà, la lutte, c'est pas quelque chose de normal. » Bon, moi, je suis pas d'accord. Je pense que si. Que la lutte, c'est normal. Que ça fait partie de notre vie. Que ça fait partie de notre Église. Si on est prêt à l'accepter dans notre vie, eh bien, on est peut-être prêt aussi à l'accepter dans la vie des autres. Alors, c'est vrai que cette question de normalité, je vais peut-être vous laisser cette question-là. Qu'est-ce que c'est qu'une église normale? Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. C'est très difficile de savoir ce qui est normal ou pas. On a tous des façons différentes de le définir. C'est peut-être aussi des choses qu'on a besoin de réfléchir ensemble. Ça fait partie des choses qu'on doit discuter, parce que souvent ce qui est normal, on n'en parle pas parce que ça paraît, c'est normal justement. Et en fait, ce genre de texte, ça remet en question ce qu'on considère comme étant normal. Je vous remercie de...